Depuis plusieurs années déjà, on peut assister à des changements considérables en matière de comportement religieux. Il est inutile d'entrer dans les détails ni de tenter de connaître les causes profondes de tous ces bouleversements, car en surface déjà on peut constater que les choses se sont transformées. Un fait est certain, la religion traditionnelle vient d'atteindre un tournant de son histoire. Ses adeptes, désorientés et comprenant mal les changements qui s'opèrent, choisissent, parfois malgré eux, diverses solutions de remplacement. Ils versent dans l'indifférence et quittent leur église, tandis que d'autres s'interrogent d'une façon plus ou moins constructive et cherchent à connaître d'autres horizons spirituels. Afin d'arrêter l'hémorragie et de trouver une solution aux multiples problèmes rencontrés, protestants et catholiques se tournent davantage vers l'action sociale et récréative. La musique moderne a trouvé droit de cité dans le culte. Le clergé se démocratise quant à la manière de s'habiller, de vivre, de se comporter. Les règles ô combien restrictives du passé, ainsi que les dogmes, s'arrondissent et s'amollissent, tout en étant toujours présents. Chose étrange, au plus on tente de libéraliser la religion, au plus on constate que le relâchement du strict dirigisme constitue la difficulté en elle-même. Qui veut trop prouver ne prouve plus rien, dit l'adage, et c'est bien là que se situe le nœud du problème. On en arrive à se dire, s'agit-il là de la vraie religion, ou encore, est-ce le véritable christianisme? Comment être certain, et où trouver l'église que Jésus lui-même a fondée? Ces questions tout à fait pertinentes conduisent tout droit à la chose la plus importante que le monde ait jamais connue, c'est-à-dire l'évangile. La parole inspirée et protégée par Dieu tout au long des siècles, malgré vents et marées. Tandis que nous parlons d'une religion à laquelle on peut vraiment avoir confiance, j'aimerais que nous gardions à l'esprit cette déclaration des Écritures. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le Nouveau Testament présente, entre autres, la qualité logique du rapport existant entre l'élément de preuve et le fait que je désire établir, à savoir qu'une Église dont les enseignements ne se basent pas uniquement sur la parole de Dieu ne peut être ni chrétienne ni, par conséquent, ce que le monde cherche. Envisageons tout d'abord la question sous un aspect purement négatif. Il existe des choses qui, d'emblée, placent une religion dans le camp des tendances spirituelles ne répondant pas aux aspirations naturelles et logiques de l'homme. Ou plutôt, il tire cette conclusion et prend les mesures qui s'imposent, au mieux les causes de la vérité et de la vertu s'emportera. La religion de Christ n'est pas une question de commodité. Elle n'a pas à s'adapter à l'homme. C'est le contraire qui est vrai. Dieu s'attend à ce que le chrétien fasse partie d'une église distincte de toutes les autres. La Bible nous avertit du danger que comporte la tendance à vouloir se conformer à ce qui se fait, à suivre la majorité, à faire le mouton de Panurge. Écoutez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque des prétendus chrétiens parlent comme tout le monde, s'habillent, ou plutôt se déshabillent comme tout le monde, se distraient comme tout le monde, et attachent aux choses matérielles la même priorité que tout le monde, cela ne signifie nullement que le restant des gens est chrétien. Cela indique au contraire que la majorité des gens ne sont chrétiens que de nom. La religion de Christ ne relève pas non plus du domaine de la conciliation. Jésus est très clair lorsqu'il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il n'est pas plus facile de devenir un vrai chrétien que de le rester. » Timothée s'entend dire par Paul « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et Pierre, quant à lui, lance cette sorte de défi. « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Cela nous démontre que le monde extérieur aux chrétiens trouve toujours le temps et l'occasion d'abuser envers lui de sa force verbale et parfois physique. La majorité des gens aimeraient trouver un compromis ou passer une sorte de pacte tacite avec les chrétiens dont la vie et l'exemple les condamnent par le contraste qu'ils font ressortir. On n'aime pas s'entendre dire non plus que le monde jouisseur et charnel dont on fait partie doit se repentir et être baptisé pour le pardon de ses péchés s'il veut faire l'expérience du salut éternel. Le chrétien, lui, vit sobrement, sagement, paisiblement, selon la justice de son Dieu. Comme le dit Tite, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. La religion de Christ ne peut se permettre les compromis disant à ceux du dehors, venez, faites partie de notre fraternité, tout en amenant votre whisky, vos blagues bien grasses et le tutti quanti. Cela plairait certainement à certains, mais l'alcoolique ne trouverait aucune solution à son drame. Au contraire, l'Église serait potentiellement détruite. Approuver ou admettre l'homosexualité peut sembler bon, mais il n'en est rien. Ces gens ont besoin de se repentir en changeant au même titre que tous les fornicateurs et adultères. Une religion qui anime et qui divertit peut sauver la conscience, mais certainement pas l'âme. L'évangile de Christ restera toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et obéit. Une chose est essentielle pour que le christianisme soit conforme au modèle divin et réponde aux besoins des hommes. Posséder un message divin. Toute la question est là. Une religion qui n'admet pas ce principe ne peut être valable. La parole de Dieu s'adresse à nous sans aucun intermédiaire par le canal de la Bible. Ces écritures sont divinement inspirées et constituent une révélation appropriée, infaillible, immuable de la volonté de Dieu concernant les êtres humains. L'apôtre Pierre est formel. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pourtant, une chose est définitive. La révélation divine faite et achevée au 1er siècle, encore destinée à l'humanité du 20e siècle, ne laisse place à aucune proclamation de prophète ultérieure et à de soi-disant porte-parole de Dieu. La situation est certes flatteuse pour eux, qui n'aimeraient être revêtus d'une telle dignité, d'une semblable autorité. Ces charlatans de la religion attirent à eux de larges foules, toutes prêtes à les suivre aveuglément. Cela fait penser à ce que Jésus disait. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, ils tomberont tous deux dans une fosse. Puisque la parole divinement inspirée de la Bible enseigne, convainc, corrige, instruit l'homme dans la justice afin de faire de lui un être accompli, on voit très mal la nécessité d'une intervention directe et ultérieure du Saint-Esprit pour révéler de nouvelles vérités complémentaires. La Bible ne contient-elle pas tout ce qu'il faut savoir pour être sauvé de ses péchés? Les Écritures n'affirment-elles pas que la puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Le Nouveau Testament contient-il un seul détail, un seul enseignement inexact et indigne de confiance? L'homme, pour être sauvé, doit-il connaître quelque chose que ne lui révèle pas Dieu? Une religion offrant des directives humaines concernant le salut s'éloigne de la vérité pour la simple raison qu'elle ne peut offrir que des opinions strictement humaines. L'homme moderne n'a nul besoin de cela car il dispose dans la Bible de tous les éléments constructifs nécessaires sans devoir encore subir les idées qu'on lui lance et qui sont très mal étayées par une argumentation dont la faiblesse saute aux yeux. Il vit déjà dans un monde où il se sent agressé par toutes sortes de méthodes publicitaires et promotionnelles et désire chaque jour davantage comprendre et revenir au saint, au pur, au vrai. Sa spiritualité n'échappe pas à cette aspiration. Et c'est pourquoi je pense que nous assistons maintenant à un renouveau faisant partie d'un contexte de recherche intelligente et sincère d'une religion différente. Les pensées profondes, telles que celles des philosophies et théologies diverses, se situent également en dehors des nécessités de base des gens. Ils semblent aspirer chaque jour davantage à la parole de Dieu et non aux théories humaines. La grande mission, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsque Jésus l'a transmise au monde. Pourquoi? Parce que l'humanité sera jugée non selon les opinions ou les témoignages de ses membres, mais par cette même parole divine. L'apôtre Paul dit bien à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Prêche la parole. Prêche la parole parce qu'il arrivera un temps où les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La première chose qu'exige la vraie religion est le message issu de Dieu. C'est celui que nous avons aujourd'hui verbalement inspiré par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la Bible. La deuxième chose qu'exige la vraie religion est un message de salut. Chaque être humain est perdu, car dit Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a séparé l'homme de son Dieu, et il a maintenant besoin de se réconcilier avec son Créateur. Le péché a réduit l'être humain à l'esclavage moral, dont seule la rédemption, le pardon, le libérera. Le péché afflige la conscience en lui faisant ressentir ses fautes. L'homme a besoin de ressentir la joie du pardon de ses fautes, car le péché a amené l'âme sous le couperet de la condamnation de l'enfer. C'est là que le sang du sacrifice de Jésus intervient, en le justifiant aux yeux de Dieu, en lui permettant de hurler comme un esclave affranchi « Je suis libre, je suis libre !» Il est agréable d'avoir une personnalité plaisante et positive, ainsi que d'être intégré dans sa société. Mais il n'empêche qu'on doit être sauvé. Il existe un nombre de conflits sociaux, de difficultés écologiques et raciales, de tensions internationales, mais l'homme doit être sauvé avant tout. Une religion qui a honte de faire face aux problèmes du péché en prêchant le sang de Christ n'est pas le christianisme. La croix de Christ constitue le centre de la prédication de l'Évangile et Paul, notamment, affirme en s'adressant aux Corinthiens, « Nous prêchons Christ crucifié. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Non, ce ne sont ni la psychologie, ni la sociologie, ni la philosophie, ni la politique, ni la fortune, ni la science qui apporteront une solution au problème du péché. Seul Christ et son évangile peuvent sauver les hommes de la péché. Heureusement, l'humanité est en train de faire un retour sur elle-même, et vous en faites partie. Que Dieu soit loué.